Voici Inside Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Pendant 3 semaines, nous suivons le manager de l'équipe, Ralf Denk, au cœur de la plus grande et la plus titrée des équipes cyclistes allemandes sur la Grande Boucle. Vous avez des questions pour Ralf Denk ? Envoyez-les à tobias.ruf@emedia.de. Et maintenant, profitez bien du nouvel épisode.
Tim Merlier remporte la 7e étape du Tour de France. Tadej Pogacar reste en jaune et Red Bull Bora Hansgrohe vit une journée calme en apparence. Pour savoir si c'était vraiment le cas, j'en discute comme chaque jour avec le manager de l'équipe. Bonjour donc à Ralf Denk en France.
Bonjour et salutations à Rosenheim.
Oui, Ralf, avant de parler d'aujourd'hui, un dernier regard sur hier. Tu nous avais déjà dit dans le podcast que les émotions s'étaient apaisées. Est-ce que les événements d'hier ont encore été un sujet de discussion aujourd'hui ? Sur le plan médiatique, je peux répondre par un oui très clair. Tout le monde en parlait et notre podcast a été cité partout au niveau national comme international. Comment cela se passe-t-il au cœur de Red Bull Bora Hansgrohe ?
Peut-on alors simplement clore le sujet et dire « nouveau jour, on continue, tout est réglé » ?
Oui, tout d'abord, j'ai été ravi que notre déclaration d'hier soir, ou plutôt ma déclaration dans notre podcast, ait été autant relayée.
Nous en avons été ravis aussi.
Et oui, d'un autre côté, le sujet était déjà clos hier soir en interne. Tout va bien, ils ont aussi, je crois, reparlé aux médias aujourd'hui. Sark Dems s'est aussi exprimé à nouveau, notre directeur sportif. Mais non, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus grand et on voit aussi la puissance des médias lors d'un tel événement sportif et comment, d'un petit malentendu, on en fait toute une histoire, mais tout le monde s'aime et nous nous concentrons sur la course.
C'est ce qu'on va faire. Parlons donc de la course. Revenons brièvement sur aujourd'hui. 2 échappés en tête, mais sans réelle chance de succès. Sprint Royal à Bordeaux, Tim Merlier est clairement l'homme le plus rapide. Vous attendiez-vous à ce scénario ou pas ?
Oui et non, j'aurais pensé que lors du dernier sprint à Pau, il y a 2 jours, il n'y avait qu'un seul échappé qui était d'ailleurs présent aujourd'hui dans le groupe de 2 échappés. Je pensais que c'était l'occasion, surtout pour les équipes invitées, de montrer leurs maillots et les logos de leurs partenaires. Le Tour de France est diffusé en direct dans 190 pays du début à la fin. C'est évidemment une visibilité énorme que tu peux obtenir pour les partenaires de l'équipe. Et ça m'a étonné que seules 2 équipes aient eu le courage de partir, d'attaquer, mais à 2 contre un peloton où derrière les équipes de sprinteurs contrôlaient la course. C'était un combat perdu d'avance et au final, on a eu droit au sprint royal à Bordeaux. Bordeaux accueille souvent le Tour de France et souvent avec un sprint massif. Il y a eu de très grands vainqueurs à Bordeaux. C'est pourquoi le sprint d'aujourd'hui était prestigieux. Je l'ai bien sûr regardé à la télévision et Tim Merlier était encore aujourd'hui le meilleur sprinteur. Il a gagné méritoirement.
Absolument. Je l'ai dit dans mon introduction. Maintenant, je ne sais pas. Était-ce vraiment la journée calme qu'elle semblait être pour vous ?
Oui, c'était relativement détendu. On avait toujours un petit nœud à l'estomac, en espérant qu'il n'arrive rien, surtout dans le final, quand la course devient plus nerveuse, qu'il n'y ait pas de chute. Tout le monde est super fatigué d'hier, de la dure étape des Pyrénées, pas seulement physiquement, mais aussi un peu mentalement. Cela fait presque une semaine qu'on court. On commet souvent des erreurs d'inattention, des chutes. Mais tout s'est bien passé, on est en sécurité. De ce point de vue, ça nous va et c'était une journée relativement détendue.
Tu sais ce qui s'est passé avec la radio aujourd'hui ? Les incrustations à la télé, je n'ai pas pu les lire ou alors très très difficilement. Les collègues d'Eurosport ont aussi dit qu'il y avait apparemment des problèmes. Tu as entendu quelque chose ?
J'ai aussi remarqué que sur l'écran, il y avait souvent des pannes, mais je n'ai aucune information sur le pourquoi.
D'accord, très bien. Alors, pour rester dans le thème, Bordeaux est aussi appelé la ville des sprinteurs. Profitons-en pour parler justement de ce sujet, le sprint sur le Tour de France. Commençons, Ralph, par une question d'auditeur, celle d'Achim Johansen. Cela rejoint ce que tu disais tout à l'heure, qu'il faut rester vigilant, éviter les chutes et les erreurs d'inattention. À cette vitesse, ça peut arriver très, très vite. Notre auditeur veut savoir, il existe une règle sur les chutes. À 3 ou 5 km de l'arrivée, comme aujourd'hui, elle est activée et protège les coureurs contre les pertes de temps dues aux chutes ou aux incidents mécaniques. Hakim veut maintenant savoir, existe-t-il une tactique d'équipe pour creuser l'écart avec les autres favoris du classement général et gagner quelques secondes? Et à l'inverse, existe-t-il une tactique pour empêcher les autres de le faire?
Oui, la marque des 5 km, il faut le savoir, ce n'est pas la ligne d'arrivée virtuelle ici. Si quelque chose t'arrive dans les 5 derniers kilomètres, comme une crevaison ou une chute, ou si plusieurs chutes, tu obtiens le même temps. Mais tu ne dois pas laisser d'écart avec le vainqueur dans les 5 derniers kilomètres, sinon tu auras un temps différent. Et c'est évidemment l'objectif des équipes qui se battent ici pour le classement général, de ne pas laisser d'écart se creuser. Mais les 5 ou 10 derniers kilomètres sont si stressants que les équipes qui jouent encore le classement général ne cherchent pas à se faire mal pour gagner 3 secondes. Cela ne vaut absolument pas le risque. Bien au contraire, toutes les équipes qui n'ont pas de sprinteurs, qui n'ont que des coureurs pour le classement général, comme l'équipe UAE Emirates, Visma Lease, Bike ou même nous, préfèrent éviter cela. C'est plutôt, et c'est ce que j'ai entendu de la part des coureurs lors de la première étape de sprint, que Tadej Pogacar dit « Eh, les équipes qui jouent le classement général restons ensemble, comme ça tout ira bien pour nous tous ». Donc plutôt dans ce sens-là. Arriver à bon port, en toute sécurité, plutôt que de chercher à gagner 3 secondes en prenant des risques énormes.
C'est donc une sorte de gentleman's agreement, on peut dire ça.
Oui, oui, et c'est beau que de tels gentlemen's agreements existent encore. Et cela définit évidemment aussi la grande star actuelle du cyclisme, Tadej Pogacar, lorsqu'il initie ce genre de choses.
D'accord, très bien. Le sujet du sprint au Tour de France. Il y a quelques jours, nous avons parlé du parcours et nous étions d'accord. L'époque où le Tour de France démarrait en douceur est révolue. Et tu avais déjà suggéré que les organisateurs préféreraient ne voir que des étapes de montagne ou vallonnées où il se passe constamment quelque chose. Contrairement à une étape comme aujourd'hui. Nous sommes à Bordeaux, la ville des sprinteurs. J'en ai parlé. Autrefois, le sprint était, du moins selon moi, le cœur absolu du Tour de France. Aujourd'hui, je ne dirais plus ça. Toi, comment vois-tu les choses?
Oui, il s'agit toujours de victoires d'étape qui apportent beaucoup de prestige à l'équipe. Le succès d'aujourd'hui de Soudal Quick-Step est une réussite formidable pour l'équipe belge et je suis ravi pour eux. D'un autre côté, les étapes de sprint sont un peu ennuyeuses pour le spectateur car il faut attendre 200 km avant le dernier kilomètre où l'action commence. Je comprends que les organisateurs veuillent éviter cela. Ce qui me manque un peu, c'est l'audace des équipes qui ne peuvent pas gagner au sprint faute de sprinteurs de haut niveau, mais qui ne peuvent peut-être pas non plus viser le top 5 ou le top 10 du Tour de France. Et il y a des équipes qui ne se disent pas, on s'associe, chacun envoie peut-être deux coureurs à l'attaque pour tenter quelque chose, car cela rendrait la course bien plus divertissante. « Cela m'étonne un peu, et ce qui m'étonne aussi, et je m'en souviens moi-même, c'est qu'avec mes équipes NetApp Endura et Bora Argon 18, en 2014, 2015 et 2016, je suis arrivé au Tour de France grâce à une invitation. Nous n'avions pas encore de licence World Tour ni de droit de participation automatique au Tour de France. Nous ne l'avons eu qu'à partir de 2017. Et je me souviens encore que le directeur du Tour, Christian Prudhomme, m'annonçait souvent au téléphone « Hey Ralph, ton équipe reçoit une invitation. » J'étais vraiment ravi, mais tu dois me promettre une chose. J'attends d'une équipe invitée qu'elle anime la course, que vous soyez offensif et que vous attaquiez. Je n'attends pas de vous, avec votre petit budget, une victoire d'étape ou un coureur dans le top 5. Mais avec un petit budget, vous devriez au mieux animer la course ou y contribuer et la rendre plus attrayante pour les spectateurs. Et cela m'étonne un peu que les équipes qui ont actuellement du mal à décrocher une victoire d'étape au sprint ou un top 5 au classement général ne soient plus offensives sur des étapes comme celle d'aujourd'hui.
Comment pourrait-on rendre des étapes comme celle d'aujourd'hui plus attrayantes? Laissons libre cours à notre imagination. Les raccourcir ou peut-être ajouter des avantages sous forme de secondes, de bonifications, des primes, je ne sais pas. As-tu réfléchi à la manière dont, au final, car qu'un sprint fasse partie d'une course cycliste, nous sommes tous d'accord là-dessus, je pense. Mais comment pourrait-on rendre tout cela plus attractif?
C'est drôle, c'est vrai, ça, il y a deux jours, nous suivions la course. C'est en général l'encadrement élargi de notre équipe. Et dans le bus, pendant les étapes, nous avons eu exactement la même discussion. Que faire pour créer du suspense et du spectacle il y a deux jours quand l'étape s'est terminée à Pau?
Nous n'avons pas trouvé de solution. Je ne saurais pas te dire.
D'accord, très bien. Ça arrive souvent dans notre podcast que Ralph Denk ne donne pas de réponses concrètes, mais oui, c'est un sujet délicat, il faut qu'il se concerte. Et toi, que penses-tu du fait que le sprint semble perdre de son importance? Dirais-tu que c'est un peu dommage ou est-ce simplement l'évolution, le sport évolue naturellement au fil des années? Est-ce un processus naturel? Tu vois ça de manière pragmatique ou avec un peu de mélancolie?
Non, je trouve ça plutôt dommage parce que ça m'a...
À l'époque, moi, quand j'étais moi-même coureur, ça m'impressionnait déjà. Le légendaire train Seiko Cannondale de Mario Cipollini, par exemple, ou Cavendish, qui était un grand protagoniste du sprint sur le Tour de France, mais Eric Zabel a aussi gagné beaucoup, beaucoup d'étapes. C'était vraiment une source d'inspiration pour moi un sprint reste inspirant aujourd'hui, mais c'est surtout la période entre le départ et les 10 derniers kilomètres qui mériterait d'être un peu plus palpitante. Mais comme je l'ai dit, nous en avons déjà beaucoup discuté en interne. Nous n'avons pas encore trouvé de solution idéale, mais peut-être que les journées plus calmes font aussi partie du Tour de France. D'accord, il faut accepter que les audiences télévisées des étapes de plaine ne soient peut-être pas aussi élevées que celles des étapes de montagne. Si on compare avec le réalisme, il y a aussi les épreuves spéciales et les étapes de liaison. Peut-être que ça fait partie du jeu et qu'il faut l'accepter. Car il y a une chose qui rend le Tour de France vraiment très, très, très spécial. C'est un événement sportif de 3 semaines avec seulement 2 jours de repos. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde du sport où en 23 jours, 21 compétitions ont lieu et peut-être qu'une sorte d'étape de transition en fait aussi partie.
Oui, c'est vrai. Le sprint, ça a évidemment été une part importante de l'histoire de votre équipe. Et là, le nom de Peter Sagan est forcément incontournable. Vous avez vous-même changé d'orientation en disant « Nous sommes désormais une équipe qui vise le classement général ». Au moment de ce changement, aviez-vous anticipé cette évolution ou était-ce une décision de fond sans lien avec l'évolution actuelle du sprint ?
Non, c'était notre décision et ça n'a rien à voir avec l'évolution actuelle pour ou contre le sprint. Il faut savoir que le maillot jaune ou le classement général, c'est la discipline reine, oui. Donc, c'est le maillot le plus précieux. Le maillot vert du meilleur sprinteur, tu peux monter sur le podium à Paris, tu peux te dire meilleur sprinteur du Tour de France, mais ça n'a pas la valeur du maillot jaune. Nous avons gagné deux fois le maillot vert avec Peter Sagan. Il a été sacré meilleur sprinteur du Tour de France. Nous avons remporté de nombreuses étapes avec Peter Sagan. Cela fait évidemment partie de notre histoire. Mais nous voulons, et c'était mon ambition, continuer à faire progresser l'équipe. Et il est clair que cela implique de tenter de viser le maillot jaune. Nous avons réussi à atteindre la troisième place jusqu'à présent à Paris. Nous étions déjà sur le podium l'an dernier avec Florian Lipovits. Je veux viser plus haut à moyen et long terme et c'est pourquoi nous allons investir dans ce domaine. Mais je dois aussi dire que c'est la partie la plus coûteuse car un coureur de haut niveau capable de finir le Tour de France dans les cinq premiers coûte nettement plus cher qu'un coureur qui remporte peut-être deux ou trois étapes sur le Tour de France.
Manque-t-il peut-être, pour revenir au sprint, ce très grand nom, cette superstar absolue ? Tu as parlé de Mario Cipollini, Eric Zabel, Mark Cavendish. Mon Marcel Kittel est avec 14 étapes le recordman allemand sur le Tour de France. Zabel en a gagné 12, André Greipel en a gagné 11.
Peut-être que le regard international manque, je ne veux pas froisser les sprinteurs, mais... ce facteur glamour à la Cipollini me manque un peu. Manque-t-il peut-être cette grande figure aussi bien sur le plan international que national ?
Ouais, plutôt un sprinteur par nature. Ouais, toujours des personnages qui polarisent un peu, comme par exemple Mario Cipollini. Je pense à ses tenues spéciales qu'il portait, pour lesquelles il a pris des amendes et qu'il payait volontiers ou que son équipe payait. C'est clair, de tels personnages manquent dans le sprint. Rien contre Tim Merlier ou rien contre Jasper Philipsen, mais ils ne sont pas aussi clivants qu'un Mario Cipollini a pu l'être. C'est peut-être aussi la raison. C'est une bonne analyse de ta part.
D'accord, très bien. Gardons cela à l'esprit, le sprint, le grand sujet du jour, car notre aperçu de demain laisse aussi présager un sprint massif. Ou peut-être pas. Écoutons cela tout de suite. Donc, nous allons de Périgueux à Bergerac. 180 km seront parcourus. Le profil est un peu plus accidenté que celui d'aujourd'hui. Nous avons deux ascensions de quatrième catégorie.
Oui, j'ai l'impression qu'avec la passivité que tu as évoquée de la part des autres équipes, je ne sais pas si ça changera beaucoup demain et on assisterait alors à un nouveau sprint massif. Quel est ton avis ?
Oui, je pense que si tu m'avais demandé hier s'il y aurait un sprint massif, j'aurais dit 99%. Demain, je dirais peut-être 60-40 parce que c'est beaucoup plus vallonné. Il y a plus de grimpeurs et même une ascension de deuxième catégorie. Les équipes qui ne veulent pas d'un sprint ou alors un sprint en très petit comité vont certainement essayer de lâcher les sprinteurs comme Tim Merlier et les autres. Mais je pense aussi, comme le début où la première partie de l'étape est déjà un peu plus vallonnée, qu'il y aura demain une plus grande bataille pour l'échappée et que le groupe d'échappée sera nettement plus grand. Et... plus il y a de coureurs qui s'échappent, plus la probabilité que le groupe aille au bout est grande parce que mathématiquement, si 10 coureurs de 10 équipes différentes sont devant, alors 10 équipes ne roulent pas derrière et la probabilité que l'échappé aille au bout est nettement plus élevée. Et donc, comme je l'ai dit, je me prononce 60% sprint massif, 40% échappé.
Oui, et peux-tu estimer le pourcentage de chance de voir un maillot Red Bull Bora Hansgrohe dans une éventuelle échappée à beaucoup de conditionnels?
Oui, nous avons des coureurs spécialement prévus pour ça. Je pense peut-être à Jean Tratnik, je pense à un, peut-être même à un Maxime Van Gils demain. Ou oui, nous laisserons de la liberté à nos gars pour qu'ils tentent quelque chose demain.
D'accord. Le départ est à 13h15. L'arrivée prévue est à 17h20. Et ce qui est certain, c'est qu'après l'étape, un nouvel épisode d'Inside Red Bull Bora Hansgrohe arrivera dans vos applications de podcast. Et le principal responsable, c'est l'homme que je remercie aujourd'hui et à qui je parlerai demain.
Meilleures salutations et merci à Ralph Deck.
Bonsoir et mes meilleures salutations en retour.
C'était l'édition actuelle d'Inside Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Vous trouverez le podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et sur les sites d'OVB Media et DeepN Media. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine édition.